France Musique. Carrefour des Amériques, Marcel Quillé-Véré.
Le Mexique, la musique et le monde, 19e épisode, le Mexique à la fin des années 30. Soyez toutes et tous les bienvenus en cette émission qui débute par l'une des chansons mexicaines les plus célèbres, Guadalajara, que Pepe Guisar a composé en 1937 en hommage à sa ville natale. Elle va connaître aussitôt une diffusion internationale, grâce notamment à deux chanteurs nord-américains qui l'interpréteront même en espagnol. Nat King Cole d'abord, puis en 1963 Elvis Presley dans le film Fanny in Acapulco, l'idole d'Acapulco. Pepe Guisar a été appelé le peintre musical du Mexique, étant donné le nombre de chansons que lui ont inspiré les villes et les paysages du pays. Guadalajara, tu as gardé ton âme provinciale, ton parfum de terre sous la rosée du matin, tes fortes pluies venues des collines, sur la route des pèlerins en marche vers le sanctuaire de Zapopan.
Guadalajara, 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 Guadalajara. Tienes el alma de provinciana, hueles a limpia rosa temprana. A verde jara fresca de río, son mil palomas tu caserío. Guadalajara, Guadalajara, sabes a pura tierra mojada. Ay, ojitos de hermano, ay, colomitos inolvidables, inolvidables como las tardes en que la lluvia desde la loma irnos hacía hasta Zapopan. Que pueblito, sus olorosos carritos hacen más fresco el dulce tepachi para la vida junto al mariachi, y en los paleanes y alfarerías suenan con triste melancolía.
La célèbre chanson Guadalajara, interprétée par les mariachis de Mexico. Dans l'Europe, qui se prépare au pire, l'Espagne est en pleine guerre civile depuis près de 10 mois. Alors que les réfugiés commencent à fuir au Mexique, le gouvernement de la République espagnole décide de protéger les enfants en les expatriant loin de la guerre grâce à des comités constitués dans chaque pays d'accueil. Près de 30 000 enfants seront ainsi envoyés par bateau au Mexique, en France, en Suisse, en Belgique et en Union soviétique. On leur a dit qu'ils partaient en colonie de vacances. Ainsi, le 27 mai 1937, 456 enfants espagnols embarquent à Bordeaux pour le port de Veracruz. Ils sont à Mexico le 7 juin et sont alors transférés dans la ville de Morelia, dans l'état du Michoacán, à 300 km à l'ouest de la capitale. Les bâtiments de la grande école technique de la ville deviennent leur école et leur lieu de vie. La plupart des enfants ont ressenti ce voyage comme un exil définitif. Et hélas, on les aura peu à peu laissés à l'abandon. On les a appelés les enfants de Morelia. Aujourd'hui, certains d'entre eux vivent encore au Mexique. Ils sont devenus Mexicains avec fierté, mais n'ont jamais rompu le lien avec l'Espagne. L'orchestre symphonique de Séville, dirigé par Antonio Rosmarba, dans un extrait de la Romería de los Cornudos, le pèlerinage des cocus, de Gustavo Pitaluga, un compositeur très attaché à la République espagnole. Ce ballet avait été composé en 1933 sur un argument de Federico García Lorca. Quand il était enfant, le poète avait souvent vu les pèlerins traverser la plaine de la Vega de Grenade en direction du sanctuaire de Moclin, où le Christ guérissait, disait-on, la stérilité des femmes. En dirigeant ce ballet en octobre 1937 à Mexico, Carlos Chavez rendait hommage à Lorca et aux républicains espagnols, comme il l'avait fait l'année précédente en créant une œuvre de Rodolfo Halffter. L'exil réunira au Mexique ces deux compositeurs. La saison symphonique de 1937-1938 est très intéressante. Le chef suisse Ernest Ansermet est de retour. Il crée le roi David d'Honegger et dirige des œuvres de Poulenc, Stravinsky et Richard Strauss. Dans la saison d'opéra, a noté surtout Aïda en septembre avec la compagnie de l'opéra de Cincinnati qui compte deux grandes voix espagnoles, la soprano Fidela Campiña et le ténor Jesús Gaviria. Ils ont quitté l'Espagne en 1935 alors qu'ils chantaient à Valence depuis plusieurs mois. Fidela avait débuté au Metropolitan Opera de New York dans Othello en 1926 et à la Scala de Milan en 1934 quand elle avait chanté Isolde de l'opéra de Wagner. On l'écoute ici avec le baryton Carlo Galeffi dans le duo de Las Golondrinas, Les Hirondelles, drame lyrique espagnol de José María Usandizaga, une histoire d'amour passionnelle et tragique au sein d'une troupe de saltimbanques. Fidela Campiña et Carlo Galeffi dans le duo de Las Golondrinas de Usandizaga, dirigé par Antonio Capdevila. Durant cette saison, le public a aussi accueilli chaleureusement la troisième symphonie du Mexicain Candelario Huízar, un hymne très lyrique à la nature de son pays. À noter que cette création a eu lieu en juillet 1938, alors que le président Cárdenas venait de nationaliser les compagnies pétrolières dans un véritable élan d'union nationale et d'allégresse populaire. Thank you. Le deuxième mouvement de la symphonie numéro 3 de Candelario, Huizar, Sergio Cárdenas à la tête de l'Orchestre Symphonique National du Mexique. Ces années-là, ce sont les débuts aux États-Unis de celui qui sera une légende de la musique populaire mexicaine, le baryton Jorge Negrete. Avec le chanteur Ramón Armengott, il signe un contrat avec la radio NBC à New York et avec un théâtre de Manhattan. On les présente sous le nom de The Mexican Caballeros. Mais très vite, Armengott, déçu par New York, préfère rentrer au pays. Jorge Negrete décide, lui, de rester et de tenter sa chance. Il a entendu parler en effet d'un cabaret latino-américain ouvert depuis peu sur Broadway et la 52e rue par le compositeur cubain Eliseo Grenet, qui l'engage aussitôt comme serveur. Un jour, Grenet l'entend chanter, et lorsqu'un soir le soliste du groupe qui l'a engagé n'apparaît pas, il demande à Jorge Negrete de le remplacer. Le Mexicain est tellement applaudi qu'il devient le chanteur de charme officiel et le maître de cérémonie du cabaret. C'est là qu'un impresario le remarque. Il en parle au baryton Lawrence Tibbett, alors directeur du Metropolitan Opera, qui propose à Jorge un contrat de doublure. Mais le cachet n'est pas suffisant pour vivre à New York. Jorge retourne alors à Mexico pour tourner dans un film. Sa carrière fulgurante va alors le mener à Hollywood, où il aidera même son ex-patron Eliseo Grenet à se faire engager. Il chante ici avec Ramón Armengott lors de leur prestation à la NBC. Le titre « Besos, les baisers », c'est un des tout premiers enregistrements de Jorge Negrete.
Un beso de tus labios me provoca, por uno de tus besos moriría. Junta, mujer, tu boca con mi boca, funde tu alma con el alma mía. Un beso de tus labios me provoca, por uno de tus besos moriría. Junta, mujer, tu boca con la mía. Siento de gozo el corazón opreso. Quiero morir al declinar el día, embriagado en el néctar de tu beso. Junta, mujer, tu boca con la mía. Siento de paso el corazón opreso. Quiero morir al declinar el día, embriagado en el néctar de tu beso.
Aux côtés de Jorge Negrete, son aîné, la chanteuse rebelle Lucha Reyes, la reine de la nuit comme on l'appelle, voit soudain sa carrière décoller à partir du moment où elle fait des films. Elle qui a vraiment créé la chanson ranchera, passionnelle, violente et souvent machiste, semble s'être soudain adoucie. Elle partage alors la vie d'un grand impresario qui l'aide à abandonner l'alcool et à se concentrer sur sa carrière d'actrice. C'est ainsi que le 8 février 1938, c'est une autre Lucha Reyes qu'on voit sur les écrans quand sort le film « La canción del alma », la chanson de l'âme, une histoire de bandits et de femmes soldats durant la Révolution. Dans la tradition des chansons rancheras, la femme, et en l'occurrence Lucha Reyes, chante les couplets qu'un homme adresse à sa bien-aimée. C'est bien là toute l'ambiguïté du genre. En effet, les paroles accusent ouvertement les femmes d'être la cause du tourment des hommes. « Pourquoi prétends-tu m'aimer ?» chantait Silucha Reyes, « alors que tu me trompes. Méfie-toi, car si tu es le fusil, si estas como rifle, moi je suis la balle. Prends garde, Juana, sois gentille avec ton Juan. » En avril 1938, l'écrivain français André Breton arrive au Mexique avec son épouse. Il loge durant 4 mois dans un studio de Diego Rivera et Frida Kahlo. Breton était invité par l'université à donner une conférence le 13 mai. C'est un exposé dont il ne reste hélas pas de traces. L'une des rencontres qui a le plus marqué Breton, c'est celle du photographe Manuel Álvarez Bravo, l'un des plus importants du pays. Deux déclarations de Breton sont restées célèbres. Il ne faut pas tenter de comprendre le Mexique par la seule raison, le Mexique est surréaliste en lui-même. Quant à l'art de Frida Kahlo, il dira que c'est un ruban autour d'une bombe. Frida, qui, à sa grande surprise, refusera qu'on dise qu'elle est surréaliste. Au milieu du mois d'août 1938, c'est la France qui va accueillir Agustín Lara, qui embarque à Veracruz avec sa nouvelle compagne. Et c'est ici la musique de Francis Poulenc qui l'accompagne. En effet, Carlos Chávez vient de créer au Mexique son concerto pour deux pianos.
Thank you.
Agustín Lara et Carmen, sa compagne, arrivent dans un Paris menacé par la guerre. C'est Pavel Granados, le biographe d'Agustín Lara, qui raconte. L'été, les gens prennent le train pour aller se détendre sur les plages. Au Music Hall, on entend Edith Piaf, Cécile Sorel habillée en homme, Miss Tinguette, Maurice Chevalier. Agustín est étonné de voir comment André Gide, très respecté au Mexique, est attaqué et traité de traître par les communistes. Il aime traîner à la terrasse du Café Le Dôme où se réunissent tant d'artistes. Après le succès remporté à Mexico par la troupe du Bataclan en 1925, il se rend boulevard Voltaire pour connaître le fameux théâtre. C'est au Café de la Paix à l'Opéra qu'il rencontre l'écrivain et poète mexicain Renato Leduc, qui connaît très bien la ville et l'a fait visiter au couple. Le père de Leduc était français et sa mère mexicaine. Il les emmène par exemple au cabaret du musicien cubain Eduardo Castellanos, situé dans la cave de l'immeuble dans lequel vivait André Breton. C'était l'orchestre cubain le plus connu de Paris et Agustín est aux anges quand il l'entend jouer des danzones.
Carrefour des Amériques, Marcel Quillévéré.
Danzón d'Eduardo Castellanos, interprété par son orchestre et enregistré à Paris en 1932. Le Paris qu'Agustín a aimé immédiatement, c'est le Paris des chansonniers, celui de Tino Rossi et de Charles Trenet, le fou chantant avec qui il se sent beaucoup d'affinités. D'ailleurs, il fredonne sans arrêt « Je chante ». Son voyage à n'en pas douter va donner des idées aux chanteurs français. C'est sans doute lui qui a fait connaître à Paris la chanson qu'il venait d'écrire et que Lucienne Delisle interprétera peu avant la guerre dans une version exotique, africaine et très coloniale, intitulée « La prière à Zumba ».
Zumba, Zumba, écoute-moi. Ma prière et ramène-moi vers celui que la rivière un jour emporta. Zumba, Zumba, tourne vers moi tes grands yeux pleins de lumière et ramène-moi dans ses bras, Zumba, Zumba. À ce moment, la tornade a surgi tout à coup. La tornade a couvert le tam-tam et couché les bambous. Et la grande idole rouge, aux yeux luisants, la grande idole rouge en s'écrasant, emporta dans les flots le chant si doux. Soir à Zumba, à présent dans la rivière, encore se débat. Zumba, Zumba. Ainsi finit la prière, soir à Zumba. Ah, Zumba, Zumba, Zumba. Ainsi finit la prière, un soir à Zumba. Ah, Zumba, Zumba, Zumba.
À Paris, Agustín Lara rencontre Maurice Chevalier et assiste à son spectacle au Casino de Paris. A-t-il vu Joséphine Baker ? Rien n'est moins sûr, et c'est sans doute au Mexique qu'ils se connaîtront. Un jour, raconte-t-il, elle était venue à Mexico et j'étais allé au théâtre où elle avait débuté pour lui rendre hommage. Par la suite, quand j'étais à l'hôpital français en train de lutter entre la vie et la mort, elle a toujours été à mon côté, avec une tendresse et une charité chrétienne incomparables. La France, en ces derniers mois de 1938, c'est Lara qui écrit à son retour, a un nouveau parfum qui s'appelle la guerre. Il y a une atmosphère d'ombre sur tout le monde et le naufrage s'annonce menaçant sur les cœurs bons et ils sont rares. L'homme se confesse au ciel et il lave son visage de larmes. Les extraits du concerto pour deux pianos de Francis Poulenc dans cette émission étaient interprétés par les pianistes Éric Lesage et Franck Bralet et l'Orchestre Philharmonique Royale de Liège sous la direction de Stéphane Deneuve. Agustín Lara n'a fait qu'un seul voyage en France. De son côté, le compositeur Silvestre Revueltas, après son équipée dans l'Espagne de la guerre civile, est de retour au pays en 1938. Il a retrouvé son poste de directeur du tout jeune orchestre symphonique national qui aura une courte vie puisque son fondateur quitte bientôt son poste au conservatoire. Revueltas a tout de même le temps, lors des derniers concerts, de créer quelques œuvres mexicaines et il continue à composer dans sa maison de campagne du Michoacán. C'est là qu'il termine la version finale de Sense Maya, une œuvre symphonique inspirée du poème cubain de Nicolas Guillén, avec qui il a lié amitié en Espagne. La création a lieu le 15 décembre. C'est aujourd'hui son œuvre la plus jouée et c'est l'un de ses chefs-d'œuvre. Un étrange rituel afro-cubain qui fait partie de cette renaissance de la culture afro-caribéenne à Porto Rico, à Cuba et au Mexique. Sense Maya de Silvestre Revueltas, Eduardo Mata à la tête du New Philharmonia Orchestra. Le poème de Nicolas Guillén dont s'inspire Revueltas s'intitule Sense Maya, chant pour tuer une couleuvre. C'est en quelque sorte la lutte de l'homme contre les forces du mal représentées par la couleuvre qu'il faut tuer afin de l'empêcher de nuire, en une sorte de sacrifice offert aux dieux de la religion Yoruba afro-caribéenne. Avec ces termes africains, issus de cette même culture, Mayombe, Bombe, Mayombe, qui rythme le poème, et que le compositeur transcrit dans un refrain scandé à l'orchestre, un rythme qui devient obsessionnel jusqu'à atteindre son paroxysme juste avant le final brutal qui tombe comme un couperet.
Thank you.
La deuxième partie de Sensemaia de Silvestre Revueltas, toujours Eduardo Mata à la tête du New Philharmonia Orchestra. En 1938, l'homme de théâtre Celestino Gorostiza, en collaboration avec le producteur de Broadway Sam Spiegel, monte une sorte de comédie musicale qui chante un Mexique haut en couleur, une manière de redorer l'image du pays après les expropriations pétrolières et de souder des alliances aussi, face à l'avancée du fascisme et du communisme en Europe. Le président Cárdenas et le département des Beaux-Arts s'impliquent dans l'aventure afin de donner à New York et donc à l'international une image très attirante et optimiste du Mexique. Parmi les participants, un jeune compositeur mexicain de 29 ans, d'origine indienne, élève de Carlos Chávez, Blas Galindo, qui utilise plusieurs thèmes populaires empruntés aux orchestres de mariachis.
Thank you.
Musique de mariachis de Blas Galindo par un ensemble de musiciens mexicains et nord-américains enregistrés ici à New York. En 1938, le compositeur cubain Eliseo Grenet, après une expérience peu concluante à Hollywood, a quitté les États-Unis pour le Mexique, où il retrouve son ami Jorge Negrete, qui l'a beaucoup soutenu ces années-là. Il apparaît dans plusieurs émissions de radio en public et il compose des musiques de films, dont l'un dans lequel joue Jorge Negrete. L'amitié entre les deux hommes sera indéfectible. Ainsi, Jorge rend hommage à Eliseo Grenet en 1944 lors de sa première tournée à Cuba. Il est ici enregistré en direct au Théâtre National de la Havane et c'est le compositeur cubain González Mantichi qui dirige l'orchestre. Negrete commence son récital par la célèbre chanson d'Eliseo Grenet, Cuba de mi vida.
De Eliseo Grenet, la preciosa canción Cuba de mi vida. Cielo, la del verde suelo y el ardiente sol. Cuba, cual gaviota herida en el mar tendida y mes de dolor. Surgiste del hondo mar en sus limpias aguas, te duerme rendida y la brisa sutil te acaricia gentil cuando te besa el sol con ardor. Que naciste bella sin par, con una sonrisa a tu paz prendida, ¿cómo es que no puedes al fin encontrar Cuba de mi vida, la felicidad? Naciste bella sin par, con una sonrisa a tu paz prendida, ¿cómo es que no puedes al fin encontrar Cuba de mi vida, la felicidad? ¿Cómo es que no puedes
Nous avions commencé cette émission avec la chanson Guadalajara. Eh bien, on va se quitter avec elle, mais cette fois dans l'interprétation d'Elvis Presley dans le film de 1963 Fanny en Acapulco, l'idole d'Acapulco, tournée à Los Angeles. Et Elvis Presley pourrait fort bien passer pour un Chicano californien dans ce Mexique de fantasy très hollywoodien.
Congratulations. Anyone who can dive like that is not a coward.
It's the best dive I ever made.
Congratulations again.
Thanks, champ.
You also have a hard job, amigo.
Congratulations.
Bravo.
That was just a reward from Dolores, that's all.
Can anybody get in the act?
Only the regular customers.
Tienes el alma deep freshana, hueles alegre rosa temprana. Abre cari fresco del río, same palomas, chucas al río, Guadalajara, Guadalajara, sabes aforrear mojara. Ay, ojito de agua en mano. Ay, colomitos inolvidables, inolvidables como la escala en que la lluvia de la loma en asasía hasta se popa. Hay colomitos inolvidables, inolvidables como las tales en con el lluvia de la loma en asasía hasta se popa.
Guadalajara, Guadalajara.
Elvis Presley en chanteur mexicain pour se quitter aujourd'hui et se donner rendez-vous dans le prochain épisode de Carrefour des Amériques, une émission réalisée par Béatrice Trichet qu'on peut écouter ou réécouter en podcast.
À réécouter sur francemusique.fr.